titre, c'est Le Réveil. Le Réveil. Mais ce n'est pas le réveil matin, hein, ce n'est pas celui-là que nous n'aimons pas, même si parfois il est nécessaire. On n'aime pas trop le réveil matin. Hein. Mais dans la parole de Dieu, dans notre langage chrétien, quand on parle de réveil, en général, voilà ce qu'on veut dire, voilà ce que ça signifie pour nous. Ça veut dire qu'il y a une action puissante, souveraine de la part de Dieu. Ça peut être sur une personne ou sur même une quantité de personnes. Eh bien, ou quelque part, là, tout d'un coup, les gens se réveillent, justement, ils se rendent compte, ils réalisent qu'il y a un Dieu que peut-être jusque-là, on n'avait pas du tout pensé à lui, on n'avait pas de place pour lui, même si on croyait vaguement en son existence. Eh bien, on dit, oui, bon, il y a certainement un Dieu quelque part, oui, pourquoi pas, derrière, je ne sais pas quelle galaxie, mais bon, moi, ici-bas, je me débrouille et je ne sais pas si vraiment il s'intéresse à moi. Ou peut-être, on était parmi les gens qui ne croyaient absolument pas, n'est-ce pas, qui croyaient tout simplement que Dieu n'existe pas. Et tout d'un coup, quelque chose arrive, tout d'un coup, on est conscient qu'il y a un Dieu, que Dieu s'intéresse à nous, et que Dieu il n'est pas lointain derrière je ne sais pas quelle galaxie, mais qu'il est vraiment présent, eh bien, et bien, qu'il nous aime en plus, mais en même temps que, oui, on a des choses à faire vis-à-vis de lui parce qu'on n'est pas tout à fait en règle avec lui. Oui, ça c'est un euphémisme. En fait, on est perdu, complètement perdu. On est des pécheurs parce que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Nous avons cet après-midi tout ça en commun. On n'a peut-être pas la même couleur de peau. On n'est peut-être pas aussi riches les uns que les autres. Peut-être on est même très pauvres. Eh bien, il y a des hommes, des femmes. Il y a des jeunes comme moi. Il y a des personnes âgées comme Bernard. on est différents. Il y a des Français. Ma femme est d'origine italienne. Il y a même un Anglais. Eh bien, bon, ça relève le niveau, au moins, un peu. Hein. Je ris même à mes propres blagues, vous voyez. Ça c'est le comble, hein. Ça, c'est le comble. Hein. Je devrais pas. Je devrais être pince sans rire. Hein. Bon. Non, mais sérieusement, oui, tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a un Dieu et qu'il s'intéresse à nous, mais qu'on n'est pas en règle avec lui. Et que donc, on a certaines choses à faire. Donc, ce soir, cet après-midi, on va regarder quatre passages rapidement pour ne pas vous tenir jusqu'à minuit parce que ma femme peut rentrer à la maison. Hein, mais des cas que nous trouvons dans la Bible. Et donc, bien d'abord, dans le deuxième livre des rois, chapitre 23, je crois que ça va s'afficher. Oui, le roi donna cet ordre à tout le peuple, célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu, comme est écrit dans ce livre de l'Alliance. Et ensuite, le verset suivant nous dit, ah non, non, ça c'est le verset après Deux Rois, le chapitre 23. On peut avoir le verset qui suit, voilà. Après ça, le verset 22. Le verset 22. Aucune Pâque pareille à celle-là, à celle-ci, n'avait été célébré depuis le temps où les juges jugeaient Israël et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez compris qu'il y a eu, eh bien, là, à ce moment-là, eh bien, là, ils ont célébré la Pâque et c'était quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tout d'un coup, il y a eu ce réveil, comment dirais-je, ils ont recommencé à faire quelque chose qu'ils n'avaient pas fait comme ça depuis des centaines d'années. Depuis des centaines d'années. Vous connaissez un petit peu l'histoire du peuple d'Israël. Vous saurez que c'était le roi Josias. Il vivait des centaines d'années depuis l'époque du roi David. Après David, il y avait Salomon. Et avant le roi David, il y avait les juges, ça faisait des centaines d'années qu'on n'avait pas célébré une Pâque comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé tout simplement, et ça vous pouvez le lire dans le chapitre qui précède, que ce jeune roi a eu à cœur de retrouver le Dieu véritable qu'on avait négligé depuis des dizaines et des dizaines d'années, de telle sorte que le temple à Jérusalem est devenu un petit peu une décharge, pratiquement une décharge publique, et on a commencé à tout nettoyer. Et à un moment donné, eh bien, ceux qui nettoyaient ont trouvé les rouleaux de la loi, des premiers chapitres, les premiers livres de la Bible, les livres de Moïse. On les a retrouvés, ça faisait des dizaines et des dizaines d'années qu'on les avait perdus de vue. Le roi ne savait même pas que ça existait. Et quand il a commencé à lire, finalement, là, il s'est rendu compte combien ils étaient loin de Dieu, combien ils avaient négligé Dieu. Ils sont revenus à la parole. Et attention, eux, ils n'avaient que les premiers livres. Hein? Les premiers livres, les rouleaux de la loi de Moïse. Mais ça a fait une telle impression dans le cœur du roi et ensuite dans le cœur du peuple, qui se sont réveillés, eh bien, ils ont commencé à mettre les choses en ordre et ils ont commencé à célébrer la Pâque comme jamais ils n'avaient fait auparavant, depuis des centaines d'années. C'était un réveil national, quelque chose d'extraordinaire. Chers amis, vous allez dire, mais en quoi cela nous concerne-t-il? Vous savez que bientôt c'est Pâques. Je crois que c'est même dimanche prochain. On est le dimanche des rameaux. Hein? Hein? Et peut-être pour certains, peut-être pour vous, au Pâques, oui, bon, ce sont des vacances, c'est des œufs, c'est de la fête, c'est de la famille. Mais Pâques, c'est... Oui, je crois qu'il a raison. Hein? C'est la Pâques, c'est beaucoup plus que les œufs et ces choses-là. Le jour qu'il est ressuscité, hein, c'est le vendredi saint qu'il a été crucifié et c'est le dimanche de Pâques qu'il est ressuscité. Maintenant, si tu veux prêcher. Oui, il est capable de prendre relever le défi, je crois. Hein, tu me laisses prêcher, après on verra ça après. Oui, oui. Donc, eh bien, pour nous, eux, ils ont célébré la sortie d'Égypte. Ils étaient pendant 4 siècles esclaves en Égypte. J'en ai parlé un petit peu ce matin, à un moment donné. Et donc, Dieu les a fait sortir. Et quand ils sont sortis, pour que le roi d'Égypte les laisse passer, laisse partir, il a fallu, eh bien, sacrifier l'agneau pascal, l'agneau de Pâques. Et on a mis le sang sur les portes, etc. Et quand l'ange destructeur est passé, là où il voyait le sang, les gens étaient tranquilles. Mais dans les familles des Égyptiens, les oppresseurs, il n'y avait pas ça. Et donc l'ange destructeur les a frappés fort. Eh bien, pour eux, c'était donc le souvenir de cela. Pour nous, c'est le souvenir aussi de Jésus, l'agneau de Dieu. Et c'est lui qui ôte le péché du monde, comme notre jeune ami nous a rappelé, si besoin était. Jésus a été mis à mort le vendredi saint, et il a porté et emporté nos péchés, et bien par son précieux sang, et le dimanche matin, le jour de Pâques, il est ressuscité, et il est toujours en vie. Il est toujours en vie, il n'est pas remort une deuxième fois, hein, mais il est toujours en vie. Et donc, pour nous aussi, si on revient à la parole de Dieu, eux, ils sont revenus à la loi de Moïse. Nous, on peut revenir à la Bible, la parole de Dieu. Eux, ils avaient un peu de la révélation. Nous, on a toute la révélation parce que nous vivons quand même des centaines d'années, des milliers d'années plus tard. Mais on peut revenir à Dieu. Vous savez, pour beaucoup de gens, la Bible, c'est un livre complètement inconnu. Mais même ceux qui possèdent la Bible dans nos bibliothèques à la maison, peut-être, il n'y en a pas beaucoup, c'est un livre qui est là pour ramasser la poussière, et pas plus. Mais quand vous commencez à ouvrir la Bible, quand vous commencez à voir tout ce que Dieu a fait pour nous, et son amour pour nous, eh bien, on est sidéré, on est bouleversé, on est complètement renversé, et on découvre que, oui, Dieu a tant aimé le monde, et moi avec. Qu'il a donné son Fils unique afin que n'importe qui croit en lui, qu'il ait la vie éternelle. Et donc, on redécouvre cela. Tout d'un coup, on réalise combien Dieu est merveilleux pour nous. Ça peut réveiller nos cœurs. Tout d'un coup, eh bien, c'est comme si Dieu a mis eh bien, le feu aux poudres dans le bon sens. Eh bien, et tout d'un coup, on se rend compte que Dieu est réel, que Dieu soit loué. Mais un autre passage, un autre réveil, c'est dans le livre de Jonas. J'ai parlé ce matin de Jonas, celui qui était avalé par le gros poisson et qui devait aller à la ville de Ninive, qui était une des plus grandes villes de l'époque, dans ce qu'on appelle maintenant l'Irak, par là. Et Jonas devait annoncer un message qui n'était pas tellement agréable à entendre. Hein? Finalement, après ses aventures, surtout ses mésaventures dans le gros, le ventre du poisson et tout cela, eh bien, il est arrivé finalement, un peu à contre-cœur, oui, mais enfin, il est arrivé dans la ville de Ninive. Eh bien, c'était une si grande ville qu'il a fallu plusieurs jours de marche pour faire le tour. Et Jonas avait vraiment un message désagréable à entendre. Eh bien, Dieu a dit à ces gens de cette ville de Ninive, encore 40 jours et la ville est détruite. Alors, évidemment, des deux choses l'une. Soit que vous dites, bon, là, il est un peu fou, ce garçon, il est éliminé. Il passe par une folie mystique, il dit n'importe quoi. Eh bien, pourquoi notre ville serait détruite? Et les gens qui penseraient peut-être ça vont dire, mais allez, il est bon pour l'asile, on n'a pas besoin de lui, allez, on l'expédie, retour à l'expéditeur. Sinon, on le prend au sérieux, ce message. Sinon, on le prend au sérieux. Et il est vrai que les gens de cette ville étaient quand même, ils avaient une conscience, comme tout le monde. Hein? Et ils savaient très bien que ça allait mal dans leur ville. Les gens de Ninive étaient connus pour leur cruauté, pour leur méchanceté. Même s'ils étaient une grande ville à la tête d'un empire, hein, néanmoins, ils savaient dans leur fort intérieur, dans leur cœur, que ça allait quand même, c'était pas bon, c'était pourri, ils étaient violents, ils étaient cruels. Hein, et ils ont cru à ce message que Jonas leur annonçait. Ils ont cru. Et le texte nous dit, eh bien, que donc Jonas a dit 40 jours et Ninive est détruite. Et un petit peu plus loin, il est dit que les gens ont écouté sérieusement et ils ont compris que si Dieu avait l'intention de les détruire, que peut-être, si on demandait pardon à Dieu, si on se repentait sincèrement dans son cœur, que peut-être Dieu aurait eu compassion d'eux. Et les textes, les versets qui suivent, vous les lirez à la maison si vous voulez, nous disent eh bien, que depuis les plus pauvres, depuis les STF, jusqu'au roi assis sur son trône, ils se sont tous repentis de leurs péchés. Ils ont tous eh bien, commencé à se lamenter, à pleurer, à demander pardon à Dieu. Que Dieu ait pitié d'eux. Et ça, c'est extraordinaire parce que c'était toute la ville. Je ne sais pas exactement combien ils étaient. Est-ce que, bon, les villes de l'époque n'étaient peut-être pas aussi grandes que celles d'aujourd'hui, mais quand même, ils étaient peut-être 10 000, 20 000, 100 000 habitants, je ne sais pas exactement. Mais tous, même avec les enfants, ils se sont repentis demandant pardon à Dieu. Et le texte nous dit, à la fin du chapitre, que Dieu a eu pitié d'eux. Dieu a eu pitié d'eux. C'est vrai que ce mot repentance, c'est un mot qui passe mal à l'époque actuelle. Hein, on n'entend pas souvent. Des fois, on entend, oui, il a fait amende honorable. Oui, moi, j'aime les amendes aussi. Hein, amende honorable. Oui, pour moi, les amendes sont toujours honorables, sauf celles des gendarmes. Ça, celle-là, ça c'est autre chose. Hein? Mais quelqu'un qui se repent, c'est rare d'entendre cela. Il a fait son mea culpa, on dit. Mais c'est toujours un petit peu faible. La vraie repentance, c'est quand on demande pardon à Dieu. C'est quand on demande pardon à Dieu parce qu'on est pécheur, parce qu'on a dit des choses mauvaise, parce qu'on a pensé des choses mauvaises, parce qu'on a fait des choses mauvaises, parce qu'on est mauvais, on est des pécheurs. Et la repentance véritable, ce n'est pas de la comédie. Ce n'est pas une mise en scène. Ce n'est pas que oui, mais je demande pardon et 5 minutes après, on recommence comme si rien n'était. Il y a des gens comme ça. La véritable repentance, c'est dans les Seigneur. Oui, je reconnais que franchement, je suis mauvais, je suis pourri, j'ai besoin de ton pardon, pardonne-moi. Et ce qui est remarquable dans l'histoire des Ninivites, les gens de Ninive, c'est qu'ils étaient plusieurs milliers, des dizaines de milliers à le faire. C'est un vrai réveil, un rêve réveil. Toujours est-il qu'on soit tout seul ou qu'on soit nombreux, on a tous besoin de passer par cette expérience-là. Comme le frère a dit, eh bien, mon épouse a souligné aussi, elle était née dans une famille chrétienne, mon épouse, donc... Quelque part, il y avait peut-être certaines facilités, je ne sais pas, parce que moi, je ne suis pas né dans une famille chrétienne. Mes parents n'étaient pas du tout chrétiens. Mon père était athée, enfin, c'est ce qu'il disait, parce que les vrais athées, je ne sais pas si vraiment il y en a beaucoup, hein, il était athée, ma mère était protestante à l'anglaise, anglicane, faisait partie de l'église anglicane, mais elle y allait très rarement aux offices, peut-être pour Noël, hein, et encore. Chez nous, il n'y avait pas de Bible, jamais vu une Bible. La prière, non, ça n'existait pas chez nous. Moi, j'étais tout seul dans la famille quand je me suis converti. Hein, et bon, c'est vrai que je n'étais pas recherché par la police. Enfin, pas encore. Hein, c'est vrai que j'avais un casier vierge. Hein, c'est vrai que j'étais comme tous les jeunes garçons de mon époque, exactement comme celui-là. Comment il s'appelle celui-là? Voilà. J'étais comme lui. Coquin, hein, qui posait des questions, hein, etc. J'étais comme tout. Mais j'étais aussi pêcheur. J'étais aussi pêcheur comme lui. Quand on est tous pêcheurs. Hein. Et j'avais besoin de demander pardon à Dieu. J'avais besoin, pourtant, eh bien, oui, comme je l'ai dit, j'étais inconnu des services de police, hein, mais j'étais quand même pêcheur. Et moi aussi, déjà, j'étais tout jeune. J'avais 9 ou 10 ans quand ça a commencé en moi. Mais déjà, je savais que j'avais fait et dit certaines choses qui étaient quand même loin d'être gentilles. J'avais besoin du pardon de Dieu. La repentance, c'est incontournable. D'ailleurs, vous avez remarqué que quand Jésus a commencé à prêcher, il a commencé par là. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc, nous avons besoin aussi de revenir au Seigneur. Alléluia. Mais après, eh bien, on peut faire des expériences formidables. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 9, eh bien, nous avons ce cas d'un réveil extraordinaire. Donc, il est dit qu'on peut visiter tous les saints. Alors, ça veut dire les chrétiens. Hein? Aujourd'hui, quand il était canonisé, etc., c'est pas dans la Bible, un saint, c'est tout simplement un chrétien qui est séparé pour Dieu. Voilà. Hein? Hein? Et donc c'est l'apôtre Pierre, il descendait aussi vers ceux qui demeuraient à Lydd, c'est une ville un peu en Israël. Et ensuite, ça va venir, enfin j'espère, ça va venir, à force de dire, ça va venir peut-être. Hein? Alors, il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Et après, Pierre lui dit, « Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. » Aussitôt, il se leva. Et ensuite, ah, il nous fait languir, hein? On va y arriver. Le verset, « Les habitants de Lydd et de Saron, ville voisine, le virent et ils se convertirent au Seigneur. » Un réveil peut se produire quand on voit quelque chose comme cela. Hein? Déjà, les foules suivaient le Seigneur Jésus, mais la foule en elle-même, elle est trompeuse. La foule qui suivait Jésus, qui chantait Hosanna le dimanche de Pâques, des rameaux aujourd'hui, c'était à peu près la même foule qui, quelques jours plus tard, disait crucifie-le, crucifie-le. Hein? C'est peut-être pas exactement la même foule, mais bon, la foule est trompeuse. Hein? Mais ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur, il peut nous faire faire des expériences extraordinaires. Et donc, Aîné était connu, apparemment. Je ne sais pas en quelle qualité, peut-être que c'était quelqu'un d'important dans la ville, ou un patron important, ou je ne sais pas, le chef de la police, ou que sais-je, toujours est-il qu'il était bien connu, apparemment. Hein? Et tout le monde savait que ça faisait des années qu'il était paralysé. Et bon, il était, apparemment, ça allait durer pour toujours. Et voilà que l'apôtre Pierre vient, il arrive, il fait des visites, il prie pour lui, et c'est pas Pierre qui fait les miracles, c'est Jésus qui fait les miracles. Hein? Et le Seigneur Jésus guérit cet homme. Et là, vous pensez, à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les portables, il n'y avait pas les informations à la télé comme aujourd'hui, mais alors une nouvelle comme ça, ça répond comme une traînée de poudre. Et rapidement, bien, tout le monde est au courant. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait ça? Comment se fait-il? Eh bien, et lorsque on connaît la vérité, eh bien, il y a un tas de gens qui se convertissent et qui connaissent le Seigneur Jésus. Alléluia, qui se donne à lui. Parce que là, on voit que vraiment, c'est Dieu qui est à l'œuvre, gloire à Dieu. Et un peu, quelques jours, enfin peu de temps après, on ne va pas le lire, mais dans les versets qui suivent, on trouve qu'il y avait une femme qui s'appelait Dorcas, qui était carrément morte. Hein? Et pourtant, eh bien, encore une fois, un miracle se produit, eh bien, grâce à la prière de l'homme de Dieu, cette femme ressuscite. Oh là là, alors évidemment, là aussi, tout un tas de gens, eh bien, se donne au Seigneur parce qu'on connaissait bien cette femme, on savait qu'elle était morte, on préparait ses obsèques et voilà que Dieu est intervenu. Nous avons un Dieu qui fait des miracles extraordinaires. Je me rappelle, il y a quelques années de cela, on avait reçu, lorsque nous étions dans les Landes, à Mont-de-Marsan, un frère brésilien qui expliquait, alors je ne me rappelle plus si c'était lui ou quelqu'un de sa famille, qui avait été aussi ressuscité. Ressuscité, eh bien, Dieu peut faire encore. J'avoue que ce n'est peut-être pas souvent qu'on voit carrément des résurrections. Mais des guérisons, des interventions de ce genre-là, oui, on en voit régulièrement. Eh bien, peut-être que c'est notre foi qui est en défaut. Je ne sais pas. Mais toujours est-il que nous avons un Dieu qui peut faire tout. Tout est possible à Dieu. Rien ne lui est impossible. Je me rappelle, il y a peu de temps de cela, avoir vu dans ce qui nous arrive sur notre iPad, il y en a des choses qui arrivent. Hein? Tout n'est pas bon, mais de temps en temps, il y a quand même des choses qui sont bonnes. C'était un médecin cardiologue américain qui affichait clairement sa foi en Jésus-Christ. Hein? Et un jour, il y a un cadavre. Bon, d'abord, il était encore en vie, mais tout juste. Et on a tout fait pour le ranimer, pour l'aider à retrouver la santé, etc. Mais il n'y avait rien à faire. Et finalement, eh bien, le médecin et d'autres, et son équipe, ont été obligés de se rendre à l'évidence. De telle sorte qu'il a même signé l'acte de décès, le certificat de décès. Et le corps attendait d'être partir à la mort. Enfin, je ne sais pas ce qu'on en fait dans ces cas-là, mais bon. Et voilà que le médecin disait qu'il avait déjà signé le certificat de décès parce qu'il n'y avait pas de problème, hein, la personne était décédée. Et tout d'un coup, eh bien, à peine il était sorti de la chambre que une personne de son équipe lui dit « Docteur, docteur, eh bien, revenez, Eh bien, il n'est pas mort, il n'est pas mort. Mais si je sais quand quelqu'un est mort, je croyais peut-être que c'était le 1er avril, ben je ne sais pas. Hein? Si, revenez, revenez. Alors, il est revenu, mais sans croire un instant que la personne était revenue à la vie. Et là, il était obligé de constater que oui, hein, la personne était revenue à la vie. Et il a découvert, oui, qu'il y a des gens qui priaient pour lui. Nous avons un Dieu, il est obligé d'annuler l'acte de décès. Hein? Nous avons un Dieu qui peut faire des choses extraordinaires. Il peut faire, mon épouse vous a parlé de son genou, qui a été guéri instantanément. Le frère, le pasteur qui a prié avec moi, ou peut-être c'est plutôt moi qui ai prié avec lui, parce que j'étais son stagiaire à l'époque, eh bien, Bernard le connaissait, c'est le frère Aubert, qui était à l'époque à Aix-en-Provence. Quelques-uns, vous l'avez connu peut-être. Hein? Il est décédé, il est auprès du Seigneur maintenant. Eh bien, ça remonte bien sûr à quelques années, parce que notre fille Rosetta était toute petite à l'époque. Hein? Alors, et moi aussi, quelquefois, j'étais guéri instantanément. Hein? Comme je l'ai dit ce matin, ça ne veut pas dire qu'on est contre les médecins, loin de là. Eh bien, je suis passé aussi par les mains des médecins à certains moments, mais aussi à un moment donné, je me rappelle, c'était un jeudi, hein, que j'étais saisi par une crise d'hémorroïdes. Je n'avais jamais eu ça avant et je ne vous décris pas, je vous fais grâce. Mais ceux qui ont connu ça, c'est horrible, combien c'est douloureux. Et, ça m'a saisi, ça m'a pris. Et j'ai dit, voilà, il va falloir aller voir un médecin, faire quelque chose, je ne peux pas rester comme ça, c'était terrible. Mais ce soir-là, on avait une réunion. Et j'ai dit, tiens, chérie, avant d'aller voir le médecin, je vais demander aux frères, les anciens de l'église, comme il dit dans Jacques, hein, de prier pour moi et de me faire l'onction d'huile. Et donc, ce soir-là, c'était une réunion de prière. Quelques deux, trois des anciens étaient là. Je leur demande s'ils étaient d'accord de prier pour moi. Et j'ai dit, écoutez, en même temps, si jamais il y a quelqu'un dans la salle qui a aussi un problème de santé, venez avec moi, les frères vont prier pour nous tous, et le Seigneur va agir. Eh bien, figurez-vous, chers amis, j'étais guéri instantanément, et c'était terminé. Et il y avait deux ou trois sœurs qui sont venues, elles aussi ont reçu la prière, et j'ai appris par la suite, et j'ai demandé, étant curieux de savoir, et sur les quatre ou cinq qui étaient là, il y en avait deux ou trois aussi qui avaient été guéris en même temps que moi. Soit le Seigneur, eh bien, il est pour la parité. Hein? Eh bien, même si les hommes chantent mieux que les femmes, comme tout à l'heure. Non, je me trompe peut-être. Hein? Eh bien, oui, le Seigneur, il est bon. Il est bon. Hein? Bon, c'est vrai qu'on n'avait pas la quantité, mais on avait la qualité, n'est-ce pas? Non, là, je rigole. Mais par contre, quand le Seigneur nous guérit de l'hémorroïde ou d'autres choses, là, je ne rigole pas. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et alléluia. Et le dernier cas de figure, c'est dans le prophète Agée. Moi qui est jeune, je n'ose pas prononcer souvent le mot Agée. C'est, hein? Eh bien, voilà. Agée, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » Et ensuite, il dit, « L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, etc. etc. » À la fin, il dit, « Ils vinrent, ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. » Si vous lisez un petit peu le petit livre d'Agée, hein, vous trouverez que le peuple de Dieu était revenu de la captivité. Vous vous rappelez qu'ils avaient été exilés à Babylone pendant 70 ans. Ils étaient revenus, mais il y avait des raisons valables et d'autres qui ne l'étaient pas. Mais bon, ils avaient commencé à remonter, à reconstruire le temple de Dieu, la maison de Dieu. Mais après, bon, il y a des problèmes, de l'opposition. Ils avaient négligé la chose et chacun a commencé à construire, à embellir sa propre maison, ce qui n'est pas interdit en soi. Bien sûr, nous avons tous des maisons, bien que nous aimons bien que nos maisons soient propres et jolies, accueillantes et tout le reste. Mais le problème chez eux, et c'est souvent le problème chez nous aussi, c'est que oui, on s'occupait de soi-même, mais la maison de Dieu, l'œuvre de Dieu, là, on ne faisait plus rien. Hein? Et donc, Dieu a envoyé Agé, hein, pour le rappeler, leur responsabilité. C'est là que le Seigneur a réveillé leur esprit. Ils se sont rendus compte, ils ont dit, oui, il a raison, oui, il a raison. Et tout le peuple avec, il y a eu un réveil pour se remettre à l'œuvre dans la maison de Dieu. Et notre époque, ici à Arles et partout où on passe, eh bien, c'est pareil. Que nous ayons des jolies maisons, oui, je n'ai pas contre cela. Mais quand même, il y a l'ordre des priorités. Hein? Le Seigneur Jésus a dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront ajoutées par-dessus. Et nous, on a toujours tendance à inverser l'ordre, à dire, voilà, je vais chercher d'abord mes intérêts, ma maison, ma voiture, mon ceci, ma ceci, et mes cela. Et l'œuvre de Dieu, bon, si j'ai le temps. Et de temps, bon, évidemment, il n'y en a pas tant que ça. Mais donc, quand on met les choses dans le bon ordre, non seulement l'œuvre de Dieu va de l'avant, mais Dieu s'occupe aussi de nos maisons, de nos affaires. Et c'est un petit peu comme l'histoire dit que la première reine Élisabeth d'Angleterre, parce qu'il y a Élisabeth II, ça veut dire qu'il y avait Élisabeth première, qui a vécu au XVIe siècle, qui ne s'est jamais mariée, etc. C'est elle, je pense que j'avais dit la dernière fois que j'étais ici, c'est elle, Élisabeth première d'Angleterre, qui au bout de quelque temps ne voulait jamais avoir une glace, un miroir dans sa maison. Parce qu'en vieillissant, elle ne supportait plus de se voir dans la glace. Hein? Hein? Toujours est-il, il y a l'histoire qui dit qu'elle avait, comment on peut l'appeler, un capitaine de la marine royale qui s'appelait le Sir Walter Raleigh. Et bien, la reine l'appelle un jour, le convoque, pour dire, voilà, je veux que tu fasses ceci, que tu ailles là, que tu envoies tes bateaux par ici, et tu as fait toutes ces choses pour moi. Et voilà. Et cet homme qui dit, oui, votre majesté, il réfléchissait, c'était toute une liste assez importante de choses à faire pour la reine, des voyages considérables avec les bateaux de l'époque. Il a dit, oui, votre majesté, ben, je suis bien d'accord, mais je ne sais pas, hein, parce que si je fais tout ça, je n'aurai jamais de temps pour m'occuper de mes propres affaires. Hein. Et c'est là que la reine lui a dit, hein, il a dit, écoute, occupe-toi de mes affaires, les affaires royales, et moi, je m'occuperai de tes affaires. Et je peux vous dire qu'il n'était pas perdant, hein. Et avec le Seigneur, c'est un peu comme ça. On s'occupe de ses affaires. Le Seigneur s'occupera sans problème de nos affaires. Nous ne serons jamais perdants avec le Seigneur. Non pas que je suis en train de dire ça dans le sens que vous marchandez avec lui. Pas du tout. Hein? Non, parce que Dieu n'aime pas ça. Mais si de tout cœur, de bon cœur, eh bien on fait ce que le Seigneur nous demande, le reste... Il s'en occupe, ce sera un peu comme je vous ai dit ce matin, vous rappelez l'histoire, eh bien, de la course des chars dans le film Ben-Hur, hein? Je le dis parce que Berland n'était pas là ce matin, je ne sais pas trop où il se traînait là, hein? Eh bien, j'ai commencé mon petit message ce matin avec cette anecdote vraie, que dans le film Ben-Hur, que tu l'as vu peut-être, il y a une course avec des chars, et quand ils étaient en train de tourner ce film, eh bien, Charles Heston, la vedette, il essayait de se tenir debout dans le char, il n'arrivait même pas. Alors, il est allé voir le directeur, il a dit, écoute, j'arrive même pas à me tenir debout dans le char et je suis censé gagner la course, j'arriverai jamais. Et le directeur a dit, écoute, maintiens-toi debout dans le char, moi, je m'arrangerai pour que tu gagnes la course. Bon, avec un peu de trucage dans les films, on fait un peu tout ce qu'on veut. Mais la leçon est là. On s'occupe des choses du Seigneur, il s'occupera de nous, il n'y a pas de problème. Et c'était comme ça. Eh bien, ils se sont réveillés, ils ont commencé à s'occuper sérieusement des choses du Seigneur. Le reste, le Seigneur s'en est occupé, il les a bénis en conséquence. Ils étaient loin, loin, loin d'être perdants. Bien au contraire, c'est ça avec le Seigneur. Il y a un verset qui dit quelque part, il n'est le débiteur de personne. Et c'est vrai. Eh bien, Dieu voit et Dieu aime celui qui donne avec joie et celui qui se donne avec joie. Dieu ne veut pas des gens qui le servent à contre-cœur, mais il veut des gens qui le servent de tout leur cœur, de toute leur force, qu'on l'aime de toute notre âme. Eh bien, et le Seigneur nous bénira. Que le Seigneur nous réveille ici à Arles et ailleurs. Que son nom soit loué. Amen. Seigneur,